Et on va s'intéresser aux frappes en Syrie, aux menaces de représailles de l'Iran suite à l'attaque présumée d'Israël sur le consulat iranien à Damas hier. On va parler aussi de des négociations sur la libération des otages. Tout cela avec votre invité Lise. Normalement, il devrait être en ligne avec nous.
Je suis ravie d'être en ligne ce matin avec Ori Sahar, spécialiste de l'Iran et ancien de l'unité 8200. Bonjour Or.
Bonjour Lise.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors effectivement, quelque chose d'assez rare, une frappe aérienne imputée à Israël aurait touché le consulat d'Iran à Damas, la capitale syrienne, et fait 8 morts, dont des membres des gardiens de la révolution islamique. On parle, Or et Sahar, d'une frappe qui visait une réunion secrète entre des responsables de la force Al-Quds de l'Iran et des hommes du djihad islamique palestinien.
Oui, apparemment, selon des reportages, il s'agissait vraiment d'une frappe israélienne assez rare, assez irrégulière, où en fait, on a appliqué quelques hauts commandants de haut gradé des gardiens de la révolution islamique iranienne. Et il faut le dire en fait qu'il s'agit du corps en fait de l'organisation iranienne officielle qui est responsable de propager la révolution, entre guillemets, c'est-à-dire en fait propager du terrorisme partout dans la région et dans le monde, y compris en Europe, en Belgique. Et ça est déjà pas normal. Le fait même qu'il y a un État terroriste qui est en train de propager le terrorisme comme politique officielle. Israël n'a pas pris officiellement la responsabilité sur cet incident-là, mais oui, les hauts commandants iraniens, depuis des années, ça fait des années en fait que les hauts commandants iraniens sont en train de diriger les efforts de Hezbollah, les efforts de Hamas, les efforts de milices en Syrie contre l'État d'Israël. Ils sont sur place, ils utilisent leur expertise, leur lien avec l'administration iranienne, les régimes, et ils ont pas mal de budget en fait. Des milliards de dollars par an juste pour construire et établir et entraîner, équiper ces milices-là. Et Israël, si c'était Israël qui a commis cet attentat-là, et en fait tué un haut commandant iranien qui a mené les efforts d'Iran, de l'Iran en Syrie, en fait il s'agit d'un tournant. Parce que jusqu'à ce moment-là, Israël a tué des officiers iraniens, elle a éliminé des responsables de Hezbollah et de Hamas, mais si je ne me trompe pas, c'était les États-Unis qui a tué Qassem Soleimani, le commandant des forces kurdes iraniennes, et non pas Israël. Israël a historiquement évité de faire de telles attaques. Mais non, on a vraiment dit... c'est assez. C'est-à-dire le fait qu'Iran est responsable de diriger des milliers et milliers des attentats de la part de Hezbollah et de Syrie contre les résidents du Nord, ça c'est vraiment été le goût qui a fait déborder la vanne.
Bien sûr. Alors c'est la première fois, comme vous disiez, Ori Sahar, qu'Israël tue des Iraniens. Puisque l'ambassade est considérée comme un territoire iranien. Donc, l'Iran a évidemment tout de suite menacé de représailles importantes. On voit bien que l'Iran, qui avait jusqu'ici un peu évité d'entrer en conflit ouvert avec Israël, se trouve devant un dilemme stratégique. Or.
Oui, il s'agit d'un dilemme stratégique, mais comme vous l'avez dit, s'il s'agit de la goutte qui a fait déborder la vase, le fait qu'Iran est en train de mener des efforts plus de, si je me trompe pas, plus de 3000 attentats de Hezbollah et de la Syrie depuis le 7 octobre. Et le fait que l'Iran est en train de, était le cerveau derrière le 7 octobre, le Hamas n'a jamais pu commettre une telle atrocité par lui-même. Des soldats de Tal ont trouvé en fait des grenades, des armements, etc. iraniens dans le sud d'Israël au 7 octobre. Et en fait le message israélien, si c'était Israël qui a commis cette frappe aérienne, le message est clair, c'est-à-dire qu'on ne peut plus tolérer, on ne va plus supporter le fait que l'Iran est en train de diriger du terrorisme en Syrie, au Liban et partout dans la région, à Gaza, etc., contre Israël.
Bien sûr. Comment expliquer, Henri Sachar, que les États-Unis se soient sentis obligés, tout de suite après cette frappe, de dire nous n'avons rien à voir avec. C'est curieux quand même qu'on a l'impression que les États-Unis aient peur de l'Iran à ce point.
Bon, il faut se poser la question, comment ça se fait? Alors, en fait, je visitais en fait le Parlement européen la semaine dernière. J'ai eu des rendez-vous avec pas mal de membres du Parlement. Et partout où je suis allé, je dis, écoutez, prenez 10% de la pression que vous faites sur Israël, la dirigez vers l'Iran, en fait. Si vous cherchez la stabilité au Moyen-Orient, il s'agit de l'Iran qui est la clé, en fait, pour résoudre la situation, pour empêcher plus de terrorisme, plus de guerre dans la région. C'est l'Iran qui est la clé, en fait, pour résoudre ce problème-là. Et je pense que les États-Unis, surtout l'administration Biden, où pas mal de responsables, en fait, ont été en fait, en faisant partie de l'administration Obama, qui a fait l'accord nucléaire avec l'Iran. C'est l'attitude, en fait, d'apaisement. C'est l'attitude d'éviter la confrontation. C'est l'attitude qui dit l'Iran comme l'élément numéro un, qui est en fait l'origine numéro un des problèmes dans le Moyen-Orient. On ne va pas la confronter, on va l'apaiser. Aux dépens, bien évidemment, d'Israël, de l'Arabie Saoudite, des partenaires traditionnels des États-Unis. On sait qu'Israël va toujours être un partenaire stratégique des États-Unis. Alors, c'est bien d'aller et apaiser l'Iran parce que, en tout cas, on aura Israël. Et ça marche pas comme ça, malheureusement. En Iran, si les États-Unis sont intéressés à avoir plus de stabilité dans le Moyen-Orient, il faut faire pression sur l'Iran et non pas tenter de l'apaiser.
Alors, c'est vrai qu'il y a deux choses qui incitent à penser que c'est Israël qui est derrière cette frappe. Or, c'est que la représentation diplomatique en question était fermée à l'occasion d'une fête traditionnelle qui célèbre le nouvel an du calendrier persan. Donc là, on voit bien le fait qu'Israël a voulu toucher uniquement des membres des gardiens de la révolution islamique et pas des civils, parce que si la représentation diplomatique avait été ouverte, évidemment, il y aurait eu des gens qui travaillaient. Et la deuxième chose, en revanche, c'est que le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, quand il a évoqué cette frappe, a dit que il ne fallait pas penser qu'il s'agissait d'une ambassade ou d'un consulat, en tout cas pas de ce qu'on considère comme une structure diplomatique qui est donc protégée par un certain nombre de lois, mais d'une véritable structure militaire de la force Quds, et qu'évidemment, c'est donc l'Iran qui est responsable de l'escalade dans la région.
Oui, mais écoutez, c'est la méthode iranienne, en fait, la méthode de Hamas, d'utiliser des bâtiments, des lieux qui sont soi-disant civils, diplomatiques, des journalistes, des employés de l'ONU. Tout ça est destiné, en fait, comme un couvert, en fait, pour couvrir leur activité terroriste. Et on ne peut pas dire, par exemple, que l'Iran. C'est exactement la même chose que j'ai dit aux membres du Parlement. Vous ne savez pas, en fait, vous ne savez pas qu'aux ambassades de l'Iran en Europe, en Belgique, en France, etc., il y a des soi-disant des attachés, des diplomates qui sont en fait des membres des gardiens de la Révolution, qui sont en fait des agents iraniens dont le rôle est en fait de propager du terrorisme au sein même de l'Europe, sur la terre européenne. C'est nouveau pour vous? Alors, c'est ça la méthode iranienne, en fait, d'utiliser ces méthodes-là pour des bâtiments soi-disant internationaux, des écoles, des hôpitaux, comme il était évident à Shifa, par exemple, à Gaza. C'est ça la méthode, en fait, de couvrir leur activité terroriste par des bâtiments qui sont souvent déjà protégés. Et ça ne marche pas comme ça. Ils ne peuvent pas diriger le terrorisme contre Israël à partir en provenance des bâtiments et des structures, des sites qui sont considérés protégés et attendre à ce qu'Israël ne touche pas, en fait.
Bien sûr, évidemment. Merci beaucoup, Henri Sachar, d'avoir été avec nous sur ce sujet. Ah non, je voulais quand même rapidement, pardon, une dernière question sur les otages, parce qu'on avait, c'est toujours un sujet qui nous préoccupe énormément. Les pourparlers ont repris. Caire. Et on n'a pas l'impression, en fait, que le Qatar met réellement de pression sur le Hamas, Henri Sahar, dans ses négociations.
C'est possible. En fait, il faut dire avec honnêteté, avec humilité, qu'on ne sait vraiment pas ce qui se passe au cours des négociations, mais on sait, bien évidemment, ce qu'il y a. Il n'y a pas un accord et on n'a toujours pas obtenu un accord avec le Hamas. Mais ce que vous dites, c'est grave. Ça veut dire qu'en fait, on est en train de relier trop sur le Qatar et non pas sur l'Égypte, en fait, qui est un partenaire beaucoup plus responsable que le Qatar, qui a financé le Hamas depuis des décennies. Pour moi, il faut beaucoup moins dépendre sur la volonté qatari et beaucoup plus sur les capacités de l'Égypte de mener des négociations, en fait, et de faire pression sur le Hamas. Et en fait, c'est Israël est en train de faire preuve à la communauté internationale de leur ligne rouge. En fait, Israël ne peut jamais donner son accord, en fait, à un accord qui va en fait compromettre sa sécurité nationale. Le fait même que Hamas demande, exige d'Israël de sortir Gaza tout à fait, totalement, le fait qu'ils exigent d'Israël de terminer la guerre avant la victoire, ça montre en fait qu'il n'y a pas assez de pression sur le Hamas. C'est possible. Parce que s'il y avait assez de pression, on aurait dit donnez-nous tout ce que vous voulez, à condition qu'on va qu'on va vous permettre de sortir de Gaza vers le nord d'Afrique ou où que ce soit. Et c'est en fait, Israël ne peut jamais accepter un accord où on termine la guerre sans la démolition de Hamas. Et c'est ça l'objectif numéro un de la guerre, avec le retour des otages. Israël doit en fait faire pression sur le Qatar, sur l'Égypte, sur le Hamas, bien sûr, pour accepter un accord qui est beaucoup mieux, en fait. Un accord qui comprend la libération, par exemple, des otages, en échange de 3, 4, 5 prisonniers palestiniens, il n'y a pas de problème, comme on l'a fait en novembre. Mais des conditions qui sont vraiment des exigences qui sont inouïes, aucun pays pourrait l'accepter.
Merci beaucoup, Henri Sahar, d'avoir été avec nous ce matin, spécialiste de l'Iran, membre des Bitronis Team Les Sécuritaires et ancien de l'unité 8200. Bonne journée à vous, à bientôt.
Bonjour, merci beaucoup.